Mesdames, Messieurs, bonjour. Alain Duhaut, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir à Bordeaux, à l'occasion donc de la sortie de votre dictionnaire amoureux de l'opéra. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir ces pages, mais peut-être avant d'en venir à l'évocation de l'ouvrage, ce dictionnaire, c'est une déclaration d'amour pour l'opéra, véritable, sincère, profonde, enthousiaste. Et comment vous est venue cette passion et quand est née cette passion pour l'opéra ?
Oh, elle est lointaine, vous imaginez. Si on en arrive à écrire ces 1100 pages, c'est vraiment qu'il y a longtemps qu'on est familiarisé par cette passion-là. En fait, quand j'étais plus jeune, je n'allais pas du tout à l'opéra, que je pensais un spectacle ringard. Et puis, un jour, quand j'avais 18, j'allais écouter de la musique, j'allais écouter beaucoup de musique contemporaine et de la musique symphonique. Et un jour, un ami écrivain qui s'appelait Maurice Roche, qui a d'ailleurs publié le premier livre sur Monteverdi, m'a offert pour mes 18 ans, ce qui pouvait paraître d'ailleurs bizarre comme cadeau pour 18 ans, le Requiem de Verdi. Mais ça a eu la chance de me faire découvrir Verdi, et j'ai eu une sorte de choc passionnel, d'autant que c'était une version extraordinaire, la version de Giulini, avec Schwarzkopf, Geda, Gyorov, Christa Ludwig, enfin une version qui est toujours, à mon sens, la meilleure. Et j'ai eu un choc pour Verdi, et comme je suis de nature plutôt passionné et boulimique, à partir de là, j'ai voulu remonter tout le courant de Verdi. J'ai découvert évidemment tous les opéras de Verdi, qui est resté un compositeur auquel je suis attaché. Et de proche en proche, eh bien, l'opéra a totalement occupé ma vie et continue de l'occuper, même si régulièrement, comme je le dis en préface dans cette ouverture, régulièrement on me dit « mais maintenant tu as tout vu partout, par le monde, tu vas te fatiguer ». Eh bien non, je ne me fatigue pas. Vous voyez, dimanche dernier, j'étais à l'opéra de Vienne pour voir Othello de Verdi. La semaine d'avant, j'étais à la Fenice de Venise pour voir Othello de Verdi. Et je suis prêt à avoir un autre Othello de Verdi, ou autre chose d'ailleurs, parce que quand on a vraiment cette passion chevillée au corps, comme je l'ai, d'une part, on veut toujours la renouveler, et d'autre part, on veut toujours la faire partager. C'est ce que je fais à travers ce livre, à travers les émissions de radio, de télévision, toutes les manières possibles.
Alors, cet ouvrage, c'est, on l'a dit, une déclaration d'amour pour l'opéra, mais c'est néanmoins des choix que vous avez fait, puisque, évidemment, il était impossible de rassembler tous les compositeurs, tous les opéras, tous les artistes interprètes, les chefs, etc. Donc ce sont des choix. Et parfois, je l'imagine, des choix cruels. C'est-à-dire qu'il y a les présents et il y a les absents. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui a motivé ces choix ?
C'est subjectif. Vous savez, le principe de cette collection, Dictionnaire amoureux, c'est tel que l'a inventé Jean-Claude Simoin, une manière de faire raconter un domaine par quelqu'un qui a voué sa vie, mais qui va le raconter en fonction de ce qu'a été sa passion. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est du domaine des mémoires, un peu de mémorial. J'ai raconté tout ce qui m'a touché à l'opéra, tout ce que j'y ai aimé passionnément. Et donc, évidemment, vous dites des choix. Les choix, c'était vraiment d'abord des œuvres, et parfois pas seulement des œuvres, mais des morceaux d'œuvre, si vous voulez. Il y a une entrée sur le Dite alla Giovine, par exemple. Ce moment tout à fait extraordinaire au deuxième acte de la Traviata, quand la malheureuse Violetta va quasiment se suicider dans la musique avec cet air, ce fil di voce, ce fil de voix comme ça, où elle va disparaître, où cette injustice terrible qui lui est faite fait qu'elle va renoncer à son amour pour complaire au père Germont. Alors, voilà, ça c'est un moment qui me bouleverse. J'ai donc fait aussi bien sûr, un chapitre sur Traviata, parce que j'ai une passion pour Traviata, mais simplement sur ce petit morceau. Et puis, il y a les chanteurs et les chanteuses, parce que l'opéra n'existe que parce qu'il y a des artistes qui portent. Et donc, j'ai eu la chance d'en entendre beaucoup, d'en rencontrer beaucoup. Donc, je rends hommage à tous ceux et toutes celles qui m'ont enchanté dans l'opéra, mais en même temps en essayant d'expliquer pourquoi, de raconter pourquoi, de faire partager. Et puis, j'ai voulu aussi faire découvrir quelques jeunes artistes. Il y a des très jeunes artistes dont, évidemment, peu de gens, mis à part les spécialistes qui sont les professionnels de l'opéra, connaissent les noms. Mais je suis persuadé que des gens comme Alexandre Duhamel ou Julie Fuchs, pour prendre deux jeunes qui n'ont pas 30 ans, seront de ceux qui marqueront l'histoire de l'opéra. Et donc j'ai voulu aussi les présenter. Et puis il y a des lieux, parce que l'opéra, ce sont des œuvres, ce sont des artistes, ce sont des lieux. Et donc j'ai eu aussi envie de raconter aussi bien la Fenice de Venise que la Scala, que Bayreuth, enfin, tout ce qui fait que cette passion se nourrit à différents courants.
Alors, on entre dans quelques semaines dans l'année 2013. L'année 2013, c'est le centenaire de la naissance de deux...
Bicentenaire
de la naissance de deux compositeurs immenses pour le répertoire lyrique, Verdi et Wagner. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce qu'on le lit évidemment au travers de l'article que vous avez consacré à ces compositeurs, mais aussi de leurs œuvres qui reviennent de manière récurrente. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Verdi et un autre sur Wagner ?
D'abord, il y a une chose qui est extraordinaire. Vous l'avez dit justement, ce sont les deux plus grands compositeurs du 19e siècle, Verdi et Wagner. Et pour moi, le mystère demeure qu'ils sont nés la même année, qu'ils ont débuté de la même manière. Ils viennent tous les deux d'un milieu modeste. Ils ont commencé par avoir des échecs. Leur troisième opéra pour chacun des deux a été ce qui les a lancés, Nabucco pour l'un, Le vaisseau fantôme pour l'autre. Ils ont connu des hauts et des bas, ils ont eu chacun une passion qu'ils ont menée à bien. La passion de Wagner, c'était de faire construire ce théâtre pour ses œuvres Bayreuth. La passion de Verdi, c'était la passion politique de contribuer à l'unification de l'Italie. Bref, tout aurait pu les rassembler et ils ne se sont jamais rencontrés. Je trouve ça totalement incroyable que ces deux personnages qui ont traversé le 19e siècle, qui avaient tout pour se parler, ne se soient jamais rencontrés. Mais ce qui me fascine, c'est que ce sont à chaque fois des gens qui ont voulu se faire eux-mêmes à travers une forte conviction. En quelques mots, Verdi, il naît à Busseto dans un bistrot auberge, en face d'ailleurs, une maison où naîtra quelques années plus tard un personnage qui n'a aucun rapport, mais c'est amusant d'imaginer que dans ce hameau de 300 habitants sont nés à la fois Verdi et Giovanni Guareschi, qui est l'auteur des Don Camillo. Donc, je referme la parenthèse Don Camillo. Il naît là, ses parents ne s'occupent pas de lui, puisqu'ils sont pris par le bistrot, l'auberge, le bazar, une boutique qui fait un peu tout. Et donc, comme il s'ennuie, et qu'il n'y a pas à l'époque de radio, de télévision, de Game Boy et toutes choses comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le seul lieu qui est ouvert, c'est l'église. L'église est à 200 mètres de la maison, il y va. Et là, il y a un curé qui voit ce petit garçon et qui se dit « Tiens, ben, est-ce que tu voudrais jouer de l'orgue ?» Et il va essayer de lui apprendre à jouer de l'orgue. Et sur ce petit orgue qu'on peut voir encore dans l'église de Busseto, Verdi va au fond découvrir la musique. Parce que très vite, il est fasciné par ses sonorités, les sonorités de l'orgue, vous imaginez, sous les doigts d'un garçon de 6 ans, c'est tout à fait extraordinaire. Eh bien, il va découvrir l'orgue et cet orgue-là va lui faire découvrir la musique. Il va rentrer dans la musique et puis un jour, eh bien, le curé lui dit « bah, tu vas tenir l'orgue pour la grand-messe ». Et il va tenir pour la grand-messe. Et il se trouve que, parce qu'il y a toujours une part de chance, de destin, de hasard, la force du destin, c'est pas par hasard qu'il a intitulé un opéra comme ça, eh bien, il y a un marchand de liqueurs qui est un notable de la ville d'à côté, Busseto, qui est là, et t'entends l'orgue qui est joué différemment des autres messes, d'habitude, et il se renseigne. On lui dit, ben c'est un gosse de 10 ans. Elle dit, mais il faut lui faire de la musique. Il est très doué. Donc, il va voir les parents. Il lui dit, ben nous, on n'a pas d'argent. Et il dit, bon, ben moi, je vais lui faire donner des leçons de musique. Et il l'emmène dans sa maison à Busseto, les Roncoles, où est né Verdi. C'est un hameau qui est à 7 km de la ville centrale de Busseto. Et là, il l'installe chez lui. Et puis, il va lui faire donner des leçons de musique. Il va le faire entrer au conservatoire de la ville de Busseto. Il va lui faire donner aussi des leçons à sa fille, Margherita. Et puis de fil en aiguille, et bien ensuite il va l'envoyer à Milan pour qu'il apprenne, pour qu'il entre au conservatoire. Et là, curieusement, ce conservatoire qui porte aujourd'hui le nom de Verdi va refuser le jeune Giuseppe Verdi parce qu'il a une mauvaise position des mains sur le piano. Ce qui fait d'ailleurs que des années après, quand il sera très célèbre, évidemment, le conservatoire voudra s'appeler Giuseppe Verdi, et pendant toute sa vie, Verdi interdira que le conservatoire s'appelle Verdi. Ce n'est qu'après sa mort que le conservatoire portera le nom qu'il porte encore de Giuseppe Verdi. Et puis donc, il revient après avoir étudié, après avoir été évidemment à l'opéra, à la Scala de Milan, quand on est un jeune musicien, on va à la Scala de Milan. Il revient, il s'installe cette fois définitivement à Busseto, il est nommé chef de fanfare, ce qui est très important. En étant chef de fanfare, d'ailleurs, un jour, il va composer une œuvre qui, malheureusement, a disparu. Parce que on donne des opéras avec des troupes ambulantes et on vient donner à Busseto le Barbier de Séville de Rossini. Mais ces troupes ambulantes sont un peu, sans doute, désordonnées et elles arrivent en ayant perdu la partition de l'ouverture. Qu'à cela ne tienne, le jeune Giuseppe Verdi va écrire l'ouverture du Barbier de Séville, une ouverture pour le Barbier de Séville. Malheureusement, cette ouverture a disparu, mais une fois, à Busseto, il y a eu le Barbier de Séville de Rossini avec une ouverture de Verdi. Et puis il a continué à donner des leçons à la fille de son bienfaiteur, et il lui a donné tellement bien des leçons qu'ils ne se sont plus quittés et qu'il l'épouse. Et là, on dit vraiment, le destin est formidable pour Verdi. Et c'est vrai que il a tout pour lui. On lui a payé des études et il épouse la fille de son bienfaiteur. Et puis, comme on est en Italie dans ce début du 19e siècle, en Italie au début du 19e siècle, quand on veut être reconnu, qu'est-ce qu'on fait? On compose un opéra. Eh bien, il compose un premier opéra, Oberto Conte di San Bonifacio. Et il s'en va sans peur le présenter à la Scala. Et à cette époque-là, on pouvait frapper à la porte et être reçu par le directeur. Il est reçu par le directeur, Merelli, qui lit l'opéra, car à l'époque aussi, les directeurs d'opéra savaient lire la musique et les opéras, et qui acceptent de créer l'opéra de ce jeune inconnu à la Scala de Milan. Et l'opéra a du succès. Et donc, comme il a du succès, eh bien, le directeur décide de lui en commander un suivant, un second. Un second, cette fois sur un livret qu'il lui impose, qui est un livret comique. Mais Verdi n'est pas tellement quelqu'un qui est touché par le comique, mais quand on a 26 ans et que la Scala vous commande un opéra, on ne refuse pas. Donc il s'y attelle. Et à ce moment-là, le destin, vous voyez, est formidable pour lui. Il est jeune, inconnu, il est marié avec une femme qu'il aime, elle vient d'accoucher d'une petite fille, Virginia, on lui commande, il a donné son premier opéra, on lui commande un second, il se met à la composition, sa jeune femme accouche à ce moment-là d'un deuxième enfant, le petit Icilio, tout va bien, et puis 6 mois après, le destin va le broyer. 6 mois après, le petit Icilio meurt. Les parents sont désespérés, Verdi s'arrête un instant de composer, et puis il y a la commande, il faut l'honorer. Il reprend la composition. Passe encore 8 mois, et cette fois, c'est la petite Virginia qui meurt. Ses 2 enfants. Au moment où il doit composer un opéra d'essence comique, vous imaginez. Mais il n'a pas le choix, il reprend la composition. Et comme si le destin voulait vraiment le broyer définitivement, c'est sa femme qui meurt d'une encéphalite. C'est-à-dire qu'en 16 mois, il a perdu ses 2 enfants, sa femme. Son destin est vraiment cruel. Il arrive péniblement à terminer l'opéra qui s'appelle Un giorno di regno, qui est affiché à la Scala, qui est un échec épouvantable, à tel point qu'il est retiré de l'affiche le soir même. Comme si le titre avait été prémonitoire, Un giorno di regno, un jour de règne. Ça veut dire qu'en 16 mois, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu ce début de réputation, et il est seul, au bord du suicide. Et puis, il nous l'a raconté dans cette esquisse autobiographique que son éditeur, Ricordi, lui a demandé d'écrire bien des années plus tard. Et puis un soir de décembre, il est sur la place du Duomo de Milan, la cathédrale de Milan. Il erre un peu perdu dans ses pensées sombres et sinistres, et il se heurte à un homme. Cet homme, c'est Merelli, le directeur de la Scala, et qui lui dit « Mais alors, ça va pas ?» Et Verdi dit « Non, je suis désespéré. » Mais il lui dit « Mais c'est rien, vous savez, des échecs, tout le monde en connaît, il faut vous reprendre. » Et Verdi dit « Non, ma vie est finie. » Et à ce moment-là, Merelli a une inspiration. Il sort de sa poche un livret, il dit « Voilà, cet imbécile de Nicolai, Nicolaï, c'est Otto Nicolaï, c'est le compositeur, un compositeur qui est une célébrité à l'époque, qui est aujourd'hui oublié, qui a composé un opéra qui s'appelle Les Joyeuses Commères de Windsor, par exemple. Donc, Merelli dit à Verdi, cet imbécile de Nicolaï vient de me refuser ce livret. Et moi, je pense que c'est un livret intéressant. Lisez-le pour en faire quelque chose. Et Verdi dit non, je ne composerai plus. Et puis, Merelli insiste. Non. Et puis, bon, finalement, Merelli fourre les feuillets du livret dans la poche de Verdi et lui dit « Lisez-le au moins pour me dire ce que ça vaut. » Et Verdi raconte qu'il rentre dans sa petite chambre froide, il jette les feuillets sur la table et, force du destin, dans ces feuillets qui s'éparpillent, il a l'œil attiré par une phrase qu'il vient de relire dans la Bible « Va pensiero sous la liderate, va penser sur tes ailes dorées ». C'est le début d'un cantique qu'il a lu dans la Bible et ça lui attire l'œil. Il va se coucher, il se relève au milieu de la nuit parce qu'il a été un peu interpellé par ces vers. Et puis le lendemain, il relit tout, puis il place une note, puis quelques notes, puis une phrase. Et puis, au bout d'un an, l'opéra est composé. Cet opéra, c'est Nabucco. Et Nabucco est créé à La Scala. Et cette fois, le compositeur est là, tout de noir vêtu, il est toujours dans ce désespoir, mais il a terminé cet opéra. Et c'est un succès incommensurable. L'opéra était prévu pour 9 représentations. Il va falloir en donner 52 pour pouvoir étancher la soif de tous les Milanais de voir cet opéra extraordinaire. Et là, c'est la renaissance de Verdi. Et à partir de là, eh bien, il va se lancer. Évidemment, il va avoir des commandes partout, dans toute l'Italie, et puis dans le monde entier. Et puis, le tsar lui commandera un opéra, c'est La Force du Destin, et puis le Khédive d'Égypte lui commandera Aïda, etc. Après, c'est toute la vie de Verdi. Mais vous voyez, ce départ est extraordinaire. Eh bien, Wagner, c'est le même départ. C'est pour ça que les destins sont croisés, c'est tout à fait étonnant. Famille de rien du tout, orphelin, il essaye de se lancer dans des affaires, ça ne marche pas. Il veut se lancer ensuite dans la musique, et ça ne marche pas très bien. Et puis finalement, il est engagé à Duisbourg et il peut créer un premier opéra qui a un vague succès. Il s'appelle La Défense d'aimer. Et puis, ensuite, il écrit un autre opéra, Les Fées. Et cet opéra, il n'arrive pas à le faire jouer, mais comme il est engagé comme chef d'orchestre, eh bien, il décide, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, de le monter lui-même. Et l'opéra est un échec tel qu'il est retiré de l'affiche le soir même. Ça vous rappelle quelque chose ? Et puis finalement, eh bien, son premier grand succès va être ce vaisseau fantôme qui va ensuite le propulser dans le renouvellement de cette écriture musicale qu'il va faire découvrir ensuite avec les grands opéras romantiques, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan et Isolde, et puis Le Ring, qui va évidemment être son grand projet, comme ensuite la construction du Festival de Bayreuth va être ce projet de faire entendre la musique différemment avec cette idée de couvrir l'orchestre. Tout ça, c'est une autre histoire. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, ces deux destins doivent s'affronter à quelque chose qui est difficile. Mais comme ils ont la passion en eux, parce que la passion, c'est le seul moteur des hommes, eh bien, ils deviendront ces deux grands compositeurs qui, comme je l'ai dit pour commencer, ne se rencontreront jamais. J'étais un peu long, mais ce que vous m'avez dit, on va aller... Voilà.
Alors, c'est véritablement effectivement une histoire de passion. Et on le lit, évidemment, dans votre ouvrage, comme on l'entend lorsque vous les évoquez, ces deux compositeurs, que l'on va célébrer donc pour le bicentenaire en 2013. Mais dans votre dictionnaire, il y a aussi d'autres compositeurs et certains dont on sent qu'ils ne sont pas peut-être traités avec une égale passion par rapport à ceux qu'on vient d'entendre. Et je voudrais citer un passage de votre dictionnaire consacré à Handel. Est-on jamais ému par Handel au-delà de cette émotion cultivée pour une forme sophistiquée ? Il m'a semblé qu'il me manquait quelque chose, un déclic, ce je ne sais quoi qui emporte l'adhésion et fait rendre les armes. Handel ne m'a jamais coupé le souffle ou fait serrer la gorge. Qu'est-ce que...
C'est tout à fait vrai. vous savez, Handel, comme je dirais, Handel étant le plus passionnant des compositeurs de l'époque baroque, et donc, un exemple, parce qu'il y a aussi des tas de compositeurs qui ne sont même pas nommés. Et j'ai bien dit dans la préface, ceux qui ne sont pas nommés, ce n'est pas des oublis, c'est un choix. Pourquoi cela? Parce que je pense qu'on monte Händel comme il ne le faut pas. Car on monte aujourd'hui les opéras de Händel comme si c'était des opéras de Verdi. Or, ce ne sont pas des opéras de Verdi parce qu'ils n'ont pas été conçus ni dans la même époque, ni dans le même système. À l'époque de Händel, on ne vient pas écouter un opéra en entier. On vient voir un opéra de Händel pour un certain nombre de grands moments, de grandes scènes, de grands airs ou de grands duos. On entre dans l'opéra, mais on en sort aussi. On parle, on s'interpelle. Quand on a une loge, on peut tirer le rideau, car à l'époque, il y a des rideaux. On peut tirer le rideau, s'affairer à tout ce qu'on veut, se faire servir des sorbets, jouer, lutiner les dames, faire tout ce qu'on peut faire dans une loge. Et on a des gens qui vous préviennent qu'il faut rouvrir le rideau pour entendre le grand air. Aujourd'hui, on écoute les opéras de Händel, qui sont quand même très longs, comme si on allait à la messe. Mais il faut savoir qu'il y a, dans les opéras de Händel, des morceaux entiers, des passages entiers, qui n'ont pas été composés par Händel, mais qui étaient composés par des compositeurs adjacents. C'est un peu comme la peinture, si vous voulez, véronaise, composait l'essentiel du dessin, et puis ensuite, il avait toute une série d'assistants qui, selon ses indications de base, allaient terminer le tableau. C'est la même chose. Et c'est pourquoi cette manière d'écouter Händel aujourd'hui, cette manière très guindée, un peu froide, me sort de ce jeu, c'est-à-dire j'ai aucune émotion là-dedans parce que on compose des représentations qui n'ont rien à voir avec la manière dont ça a été construit. Et ça a été conçu pour être une sorte de musical Händel, avec des grands numéros et puis des numéros moins importants. Et comme on veut lui donner de manière un peu intégriste une sorte de réalité qui serait celle d'aujourd'hui, eh bien, on tue ces opéras de Händel qui deviennent finalement parfois, de mon point de vue en tout cas, plus admirables qu'émouvants. C'est-à-dire qu'on admire la manière dont c'est fait, c'est admirablement composé, mais tout est composé de la même manière. On n'est pas surpris dans un opéra de Händel, il n'y a pas de surprise, puisque on sait comment la science de l'harmonie et du contrepoint permet d'avoir des airs qui avancent de la même manière, qui peuvent avoir de grandes beautés à l'intérieur. Le Sepieta de Cléopâtre dans le Jules César, c'est un moment extraordinaire. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses qui sont là et qui sont du remplissage, ce remplissage qui est composé par les assistants pour déployer toute la scène. Et moi, j'ai envie d'être tenu en permanence. J'ai envie d'être pris dès le premier accord, comme si le souffle vous était arraché et qu'il ne vous était rendu qu'à la fin. Je n'ai jamais trouvé ça dans Händel.
Alors, il y a un compositeur que vous traitez d'une manière assez curieuse également. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, puisque vous avez le privilège d'interviewer Berlioz. Alors, en fait, évidemment, quand on lit votre dictionnaire, c'est ce qui est passionnant, on a des atmosphères qui changent d'un article à l'autre. Et alors, ce moment-là avec Berlioz est absolument fascinant. C'est le personnage, sa vie aussi, son verbe, qui vous a incité à, j'allais dire, à l'interviewer, si on peut dire.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, vous avez raison de souligner que c'est des rythmes différents. J'ai été très vite conscient que j'allais, si vous voulez, un dictionnaire amoureux, la moyenne des dictionnaires amoureux, c'est 600 pages. J'ai très vite été conscient que ça allait les dépasser et ça fait quasiment le double. Mais donc, pour que ça puisse être varié, j'ai essayé de donner des rythmes différents. D'abord, il y a des articles courts, des articles moyens, des articles très longs. Il y a un article qui fait 35 pages, il y en a un qui fait 5 lignes. Tout ça est varié. Et en même temps, j'ai voulu de temps en temps aussi avoir des points de vue différents. Et Berlioz, c'est un personnage d'abord. C'est presque un personnage d'opéra. Mais il n'a pas composé que de l'opéra, Berlioz. Donc j'ai voulu centrer sur l'opéra. J'ai d'abord écrit une première version d'un article qui ne me satisfaisait pas, parce que au fond, on n'avait pas la démesure du personnage. Or, la démesure du personnage, on la connaît, parce que Berlioz a beaucoup écrit. Il y a énormément d'écrits de Berlioz. Et au fond, je me suis dit, la meilleure manière, c'est de le faire parler lui-même. Mais comment le faire parler lui-même? Eh bien, en pratiquant ce qui se pratique, ben voilà, ce que vous pratiquez, qui est typique de notre époque, l'art de l'interview. Dès que quelqu'un a une importance quelconque, on l'interviewe. Donc, comme je fais aussi ça le plus souvent, je suis dans l'autre sens, à la radio ou à la télévision, je me dis, voilà, je vais écrire une interview de Berlioz, mais dans cette interview de Berlioz, il y a 95% qui est de Berlioz. Parce que j'ai pris tous les écrits, et nombreux écrits de Berlioz, aussi bien dans son autobiographie que dans ses écrits plus théoriques et ses écrits sur l'opéra. J'ai pris tout ce qui concernait l'opéra, j'ai fait un montage, et à partir de ce montage, j'ai réinventé une interview. Alors, de temps en temps, il y a quelques mots, quelques phrases pour faire la liaison, mais ce que je voulais donner à entendre, c'est d'abord la conscience qu'a Berlioz de lui-même, qui est tout à fait extraordinaire, mais la conscience aussi de la continuité de son œuvre, de sa volonté de s'affronter en permanence à, au fond, il faut bien dire, tout ce qui s'est opposé à lui, puisque vous le savez, il n'a pas eu la chance, par exemple, de voir monter ses Troyens en entier durant son vivant, et c'est quand même tout à fait étonnant d'imaginer qu'aujourd'hui encore, Berlioz, comme l'a dit un critique il y a 20 ans, est le plus grand compositeur anglais, parce que ce sont les Anglais qui ont donné la première intégrale des ouvrages de Berlioz. C'est en Angleterre qu'on monte beaucoup plus Berlioz ou aux États-Unis, et que quand il y a eu la célébration du bicentenaire de Berlioz, bien, il y a eu un discret voile jeté sur ce compositeur. Alors que c'est un personnage extraordinaire. Mais une fois qu'on a dit que c'est un personnage, c'est pas suffisant, il faut le faire vivre. Et donc, je me suis dit que la meilleure manière de le faire vivre, c'était d'inventer cette interview à partir de ce qu'il pouvait dire. Et donc, je me suis amusé à cet exercice.
Oui, ça donne des lignes vraiment passionnantes. Alors, peut-être un dernier mot sur les compositeurs français, puisque votre ouvrage en cite de nombreux, les évoque avec, je l'ai senti comme ça, une vraie passion aussi pour la musique française. Alors, on croise Adam, on croise Boieldieu, on croise Aubert. On ne croise pas d'article sur Gounod. Mais on a ces œuvres qui sont évoquées. Et puis, on a, au fil de l'évocation de ces compositeurs-là, bon, Berlioz évidemment, on vient d'en parler, on sent aussi une vraie chaleur pour la musique française. Est-ce que vous pouvez nous...
Oui, j'ai une vraie passion pour la musique française, dont je pense qu'elle n'est pas suffisamment mise à l'honneur en France. Mais ça, c'est une espèce de masochisme antinational qu'on peut voir dans beaucoup d'autres domaines.
Mais, et Bizet, bien sûr. Pardon.
Bien sûr, alors Bizet, oui. Bizet, c'est extraordinaire, parce que Bizet, c'est compositeur d'un opéra, et au fond, s'il n'avait pas composé 3 mois avant de mourir Carmen, on ne parlerait plus de Bizet, c'est ça qui est étonnant. Mais je fais une parenthèse sur Gounod. Oui, Gounod, la vie de Gounod a un intérêt, mais qui n'est pas un intérêt profond par rapport à son œuvre. C'est une vie un peu à la fois de moine et de voyou, puisque vous savez qu'il était à la fois mystique et érotomane, mais ça n'apporte rien vraiment à la connaissance de son œuvre. Donc j'ai préféré m'intéresser à ses œuvres. Mais quant à l'opéra français, je trouve que, si vous voulez, l'opéra est né en Italie, mais très vite, il s'est développé en France. Il y a des trésors extraordinaires, mais vraiment des trésors qu'on oublie ou qu'on réduit à quelques œuvres. Je prends par exemple Massenet. En France, on joue 3 opéras de Massenet, Manon, Werther et Thaïs. Et c'est tout. Moi, j'ai vu, au New York City Opera, j'ai vu Esclarmonde, Le Roi de Lahore, Hérodiade, des opéras qui sont absolument magnifiques et qui, encore une fois, sont joués par nos compatriotes d'outre-Atlantique, tant mieux pour eux, mais c'est quand même tout à fait étonnant que notre patrimoine, si vous voulez, par moment, il y a vraiment un gros travail qui est fait sur le patrimoine. Vous le connaissez bien ici à Bordeaux. Vous avez eu la chance d'avoir, d'une part d'abord, avoir le plus bel opéra de France. Ça, je ne le dis pas pour vous, parce que c'est dans le livre. C'était bien. Tout le monde sait que c'est le plus bel opéra de France, mais il a été formidablement bien restauré. On a donc pris conscience de ce patrimoine. Or, on ne prend pas conscience du patrimoine extraordinaire, aussi bien de la musique française du XVIIIe siècle. Vous citiez Boieldieu, ou Adam, ou par exemple, j'ai consacré un grand passage à Léo Delibes. Léo Delibes, c'est un compositeur extraordinaire. On ne joue plus Léo Delibes. Et pourtant, du Roi l'a dit à, évidemment, Lacmé, il y a des trésors à redécouvrir. Donc,
on n'entend plus guère que Coppelia.
Oui, mais le ballet, oui. Voilà. Mais les opéras, ils sont formidables. C'est aussi un compositeur d'opérette formidable. Il y a une opérette qui s'appelle L'Omelette à la folle en bouche, qui est une chose délicieuse. Alors, bon, on nous remonte tout le temps les opérettes d'Offenbach. C'est très bien, moi j'adore Offenbach. Mais c'est bien aussi d'entendre des opérettes de Chabrier ou de Léo Delibes. Donc, il y a en fait tout ce répertoire dont je veux qu'on puisse être conscient. Ensuite, on aime ou on n'aime pas. Je veux dire, on n'est jamais forcé d'aimer tout. Mais moi, j'aime pas, vous parliez de Wagner, j'aime pas tout dans Wagner. Et même dans Verdi, qui est ma passion, il y a même un opéra que j'aime moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Et aujourd'hui, dans une époque de consommation extraordinaire, d'information extraordinaire, pourquoi est-ce qu'il y a tout un pan de notre culture nationale, qui est la culture lyrique française, qu'on oublie? Je trouve ça très dommageable. Et plutôt que d'aller ressortir le énième petit opéra baroque d'un sous-Händel de province, on ferait mieux de monter nos opéras. Voilà, c'est... Si vous voulez, l'avantage d'un dictionnaire amoureux comme ça, c'est que c'est formidable, parce que c'est comme si on écrivait une série d'éditoriaux. Il y a un mensuel dans lequel j'écris chaque mois un éditorial où ça s'appelle L'humeur d'Alain Duhaut, donc je peux dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et là, j'ai un livre entier pour ça. Il y a des choses que j'adore passionnément, je veux faire partager cette passion, et des choses qui m'énervent, et je veux faire partager cet énervement.
Nous en sommes très heureux. Alors, vous évoquiez à l'instant la dimension de certains articles et d'autres. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire, cher public, le commentaire qu'Alain Duhaut écrit sur les maîtres chanteurs, qui est probablement l'article le plus bref, je vous le confirmer tout à l'heure, cinq lignes du dictionnaire de l'opéra.
Alors, avant que vous le lisiez, il faut que j'explique pourquoi, parce que je trouve que j'ai une grande passion pour Wagner et que je n'arrive pas à accrocher aux maîtres chanteurs, que j'ai pourtant évidemment professionnellement vu souvent, et à chaque fois ça m'ennuie un peu. Je trouve que c'est très long, et pourtant... Le crépuscule des dieux est plus long, mais me passionne d'un bout à l'autre. Et les maîtres chanteurs, je n'arrive pas à accrocher. Et je me suis dit, ou bien je ne cite pas du tout les maîtres chanteurs, mais je me suis dit quand même là, on va penser qu'il y a vraiment un oubli. Donc je cherchais une solution, et cette solution, je l'ai trouvée en découvrant une anecdote que M. Crozier va vous lire.
Alors, je cite Alain Duhaut. Le grand cinéaste Billy Wilder racontait un jour: hier soir, je suis allé voir les maîtres chanteurs de Wagner. Le spectacle commençait à 6 heures. 3 heures après, j'ai regardé ma montre, il était 6h15.
Voilà, tout est dit. Ça veut dire que ça peut avoir un certain poids.
Alors,
puis il faut de temps en temps quand même qu'il y ait un peu d'humour.
On constate dans votre dictionnaire... que c'est un dictionnaire amoureux par la passion que vous éprouvez pour ses œuvres, pour ses compositeurs, mais aussi ce dictionnaire évoque un certain nombre d'éléments autobiographiques où vous parlez de vos rencontres et de certaines femmes. Et j'ai trouvé très, très poétique et émouvant un passage où vous évoquez une représentation de Rusalka. Lors de cette représentation que vous avez vue à Prague, c'est une personne charmante qui vous accompagnait et qui vous a inspiré quelques vers. Et finalement, l'article qui évoque Rusalka, c'est l'évocation de cette rencontre et de ces vers.
Oui, c'est-à-dire que pour comprendre cela, il faut comprendre que j'ai plusieurs vies. En tout bien tout honneur, j'entends. C'est-à-dire que j'écris des livres, je fais de la radio, je fais de la télévision, mais aussi j'écris des livres de poèmes. J'ai d'ailleurs un nouveau livre de poèmes qui paraît au mois de mars chez Gallimard, ça c'est ma page de publicité, qui s'appelle déjà, parce qu'il est sous presse, qui s'appelle « Les sept prénoms du vent ». Et donc, effectivement... J'ai eu la chance d'avoir des belles rencontres avec des chanteuses ou des initiatrices. Là, en l'occurrence, c'était une jeune femme que j'ai rencontrée à Prague et qui m'a fait découvrir Rusalka. Et donc, j'ai écrit un poème. Effectivement, c'est un peu... la variété de ce qu'il y a dans ce livre. J'ai écrit un poème simplement pour évoquer cette rencontre à Prague. Un soir, non loin du pont Charles. Mais parce qu'il y a, si vous voulez, c'est un dictionnaire amoureux, je reviens dessus, ce terme, il est pas rien, c'est dictionnaire amoureux de l'opéra. Et donc, l'amour de l'opéra, il est né aussi dans l'amour qu'on peut avoir avec certaines personnes. J'ai eu la chance de vivre de temps en temps, enfin pas de temps en temps, de vivre quand même pas trop, mais de vivre avec quelques chanteuses d'opéra, mais évidemment ça m'a marqué. Et il y en a une avec qui j'ai vécu plus longtemps que je décris, mais je ne vais pas dire son nom. Elle a chanté pas mal de fois à l'Opéra de Bordeaux d'ailleurs. Mais bon, alors voilà, je raconte parce que ça fait partie aussi. Si vous voulez, les choses qu'on aime, elles ne sont pas simplement un bloc froid et anonyme. Elles sont liées à tout ce qu'on a vécu. Au fond, si vous rencontrez quelqu'un et on vous dit cette personne est un génie absolu et qui vous est pas du tout sympathique, bon, bah, vous dites c'est peut-être un génie absolu, mais j'ai pas envie de dîner avec. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et puis vous rencontrez quelqu'un comme ça, par hasard, et puis que vous avez envie de connaître mieux, ben vous allez lui parler, vous allez approfondir votre rencontre, vous allez pouvoir dîner avec. Et puis, tout cela va créer quelque chose qui est de l'ordre de cette impression sensitive. Vous savez, on ne peut pas être amoureux de l'opéra et ne pas être touché par tout ce qui est lié à la sensibilité, à la sensualité. Je dis toujours, par exemple, que je me méfierais de quelqu'un qui prétendrait aimer la musique et qui ne boirait que de l'eau et mangerait des algues séchées. Alors là, je bois de l'eau parce que pour garder mon esprit conscient, mais c'est pas toujours le cas, parce que je pense que de la même manière que Baudelaire a bien montré les correspondances entre les différents éléments de la sensibilité, eh bien, il y a des correspondances aussi entre la vie personnelle et ce qui motive votre passion. L'opéra, c'est des histoires de passion, c'est des histoires d'amour, de tendresse, de déchirement, de haine. C'est au fond tout ce qu'on vit ou ce dont on rêve, ou tout ce qu'on lit dans les romans, ou tout ce qu'on voit au cinéma. Verdi, s'il vivait aujourd'hui, il ferait des films, il ferait pas des opéras. Donc c'est logique qu'on y raccroche sa propre vie, sa propre passion. C'est avec ça qu'on nourrit les choses qu'on communique. Si vous n'avez pas l'expérience de l'amour, vous avez du mal à l'exprimer. Et c'est d'ailleurs ce qui fait des moments de génie. Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme Schubert, à 17 ans, arrive à écrire Gretchen am Spinnrade, Marguerite Rouet, qui est une évocation où l'amour est frémissant, alors qu'il ne l'a pas connu, parce que c'est un génie. Mais quand on n'est pas des génies, qu'on est des gens normaux comme vous et moi, eh bien, on nourrit sa passion avec justement tout ce qui est la matière de la vie, la sédimentation de la vie. Chaque élément qui nous construit et qui fait que petit à petit, nos pierres de mémoire construisent la maison dans laquelle on vit, la maison de notre vie. Eh bien, c'est évidemment tout ça qui se retrouve dedans. C'est pourquoi un certain nombre de femmes que j'ai aimées, et dont effectivement, comme je suis très lié à l'opéra, ce sont autour de l'opéra, soit m'y ont initié, m'ont ouvert des yeux et des oreilles, ou soit j'ai eu la chance de partager leur vie, elles se retrouvent dedans.
Alors la poésie, bien sûr, présente, comme on vient de le voir, elle est présente aussi dans un certain nombre d'articles, de textes que vous écrivez autour d'œuvres. Et je pense notamment au Ring, où vous citez largement Baudelaire, en prenant la liberté de changer nature par Ring. Et tout est dit de la passion et de l'intérêt de cette œuvre dans les quelques vers de Baudelaire.
Bah oui, parce que, si vous voulez, encore une fois...
Dont on sait qu'il était un très grand amateur de Wagner et défenseur.
J'étais amateur, vous imaginez, quand il y a quand même des rencontres qui sont extraordinaires. On se dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu les caméras, là, quand même. Des rencontres entre Wagner, il y a des rencontres Wagner, Baudelaire et Liszt. Il y a une rencontre célèbre à Paris, au moment donc, où Wagner veut monter Tannhäuser, et il y a un dîner ensemble. Wagner et Liszt étaient liés, puisque Liszt était le beau-père de Wagner, et puis Baudelaire était leur ami aux deux, et donc ils dînent tous les trois ensemble, vous imaginez ? Si on avait des caméras, quelle émission ça ferait ? Ou, je sais pas, un enregistreur comme ça. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça.
Non, pour l'évocation...
Parce que la poésie. Parce que le Ring de Wagner, c'est d'abord un grand poème. Vous savez que Wagner, c'est le seul qui écrivait lui-même ses textes, ses livrets. D'abord, il y a une lettre qui est assez croquignolette où il dit qu'il se pense plus grand poète que compositeur. Ça, on peut être génial et de temps en temps pas avoir une vue réelle sur ce qu'on est. Mais néanmoins, il investissait déjà beaucoup dans les mots. Et ces mots-là étaient le support de son travail mental qui l'amenait à créer la musique. Mais il y a aussi un rapport à la poésie dans la manière dont il organise ses opéras. Et j'y ai trouvé tout d'un coup un rapport à Baudelaire et aux correspondances baudelairiennes. Eh bien, voilà, c'est encore une manière, quand je dis « tout vous nourrit », si on veut faire partager quelque chose, on va essayer d'utiliser tous les éléments. Moi, dans les éléments de ma vie, il y a la poésie, donc je veux montrer que, si vous voulez, je veux montrer le ciel rouge. Bon, bah plutôt que de dire le ciel est rouge, je vais vous dire regardez, le ciel, il est flamboyant, c'est un incendie qui va se répandre sur les toits, et tout d'un coup, quelque chose de différent vit. Eh bien, de la même manière, plutôt, j'essaye de décrire le ring dans sa réalité, parce que le ring, c'est un mot qui est un peu abstrait en soi, et ce mot allemand, qui n'a pas une grande signification, recouvre quand même sans doute l'opéra, puisque en fait, même si c'est en quatre parties, c'est un opéra, le ring, un opéra de 16 heures réparti en quatre journées, enfin un prologue et trois journées. Eh bien, pour donner une idée de ce que c'est, il faut d'abord donner des clés, parce qu'il faut aussi que cet opéra soit, ce livre, curieux lapsus, soit un plein d'informations, puisqu'il faut aussi donner de la matière à ce que les gens connaissent mieux. Quand vous aimez, vous avez envie de connaître, et quand vous connaissez mieux, vous aimez mieux. Donc je donne des informations, mais en même temps je veux nourrir ces informations de quelque chose qui soit la chair vivante, la chair de ce qui fait que les opéras, ce sont des choses qui nous font en principe lever les poils. Parce que sinon, si c'est quelque chose qu'on consomme comme ça avec le petit doigt en l'air, ben c'est non, on n'entrera pas dans cette vérité de l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose qui est physique. Le chant, c'est physique. Il n'y a pas plus belle impudeur qu'une femme qui va retourner l'intérieur de son corps pour faire entendre sa voix. Ou un homme, d'ailleurs, c'est curieux, je parle souvent des femmes. Mais enfin, un chanteur ou une chanteuse qui vous dit à travers sa voix tout ce qu'il y a à l'intérieur de son corps. C'est comme un gant qu'on retourne. Eh bien, cet élément physique, si je veux être convaincant, il faut qu'ils s'entendent aussi dans le livre, parce que sinon, via des dictionnaires très, très froids, informatifs, qui vous donnent les éléments, et ils sont très bien faits. Mais quand on fait un dictionnaire amoureux, on y ajoute justement ce frémissement amoureux, sinon ce n'est pas la peine.
Alors l'opéra, Alain Duhau, c'est les œuvres, c'est les compositeurs, mais c'est aussi les chanteurs. Et il y a une très grande...
Vous avez compris. Voilà. Et les chanteuses.
Les chanteuses. Et il y a une très grande partie de cet ouvrage qui est dédiée à des artistes d'ailleurs de notre temps. Vous avez évoqué quelques jeunes chanteurs tout à l'heure. Il y a aussi quelques grands chanteurs, on va y revenir. Et puis des chanteurs du siècle dernier également.
En tout cas une, importante.
Voilà. Et puis il y a des évocations de jeunes chanteurs qui sont devenus des stars, avec certains éléments, des anecdotes qui sont passionnantes, que l'on découvre sur leur biographie. Je pense notamment à cet article que vous consacrez à Philippe Jaroussky, et notamment à l'origine de son nom.
Ouais. Mais parce que Philippe Jaroussky, bon, évidemment, c'est devenu aujourd'hui une star, mais un jour, Philippe dînait à la maison, et puis, je ne sais pas comment on parlait, je lui dis, mais donc, tu es d'origine russe Je dis oui, mais je lui dis, est-ce qu'il y a une filiation dans ton nom et tout? Mais il me dit, mais tu sais, je ne m'appelle pas du tout Jaroussky. Je dis, ah bon, t'as pris un pseudo? Il dit, non, c'est plus compliqué que ça, il m'a donné son nom exact, je ne saurais pas vous dire, qui se termine par Kof, en tout cas. Jamonchukov. Et je lui dis, alors pourquoi tu te fais appeler Jaroussky? Il me dit, c'est l'histoire est amusante, puisque, en fait, c'est son grand-père, je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, enfin, c'est un de ses aïeux, au début du siècle, qui fuyait la Russie. Et au moment de passer à la frontière, il arrivait à la frontière allemande, on lui demande ses papiers. Et puis, il n'avait pas de papier. Enfin, c'était une situation, d'après ce qu'il m'a expliqué, de panique. Mais il voulait absolument passer en Allemagne. Et on lui dit, mais alors, quel est votre nom? On lui dit en allemand, quel est votre nom? Et il était paniqué, et il a cru qu'on lui demandait ce qui il était. Il a dit, Jaroussky. Oui, je suis russe. Et donc, le douanier a écrit, Jaroussky. Et ils ont gardé la famille donc a gardé ce patronyme, puisque c'était celui avec lequel ils avaient pu fuir ce pays dans lequel ils ne voulaient pas rester. Et ils sont gardés ce Jaroussky, et ils ont fait ensuite enregistrer, quand des années après le nom a été définitivement enregistré, qu'ils ont fait faire des papiers officiels, le seul papier qu'il avait, dont il disposait, c'était le papier qu'on lui avait remis à la frontière, où il s'appelait Jaroussky. Et donc, ils ont fait mettre sur leur passeport, comme je l'ai vu de Philippe Tchkov, dit Yaroussky. Et maintenant, il porte ce nom en hommage à son grand-père. Donc voilà. Mais il y a des anecdotes. Il y en a une que j'aime beaucoup. Je vais la raconter, puisque vous me posez la question. Non, parce que il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer une fois dans ma vie Nelson Mandela. C'était à l'île Maurice où il séjournait, et je lui ai raconté cette anecdote que j'ai racontée dans mon livre parce que je la trouve très bouleversante. Grace Bunbury était une grande mezzo-noire américaine, et elle a été engagée en 1953 par Wieland Wagner pour chanter à Bayreuth le rôle de Vénus de Tannhäuser. Et une noire à Bayreuth, ça s'était jamais vu, et ça a fait un scandale. Il y avait encore en 53 quelques nostalgiques de l'oncle Adolphe qui trouvaient inadmissible qu'on engage une noire à Bayreuth. Et ce scandale a scandalisé Wieland Wagner, qui a réuni une conférence de presse qui est célèbre pour avoir tenu en une phrase. Il a dit, voilà, je sais qu'il y a eu ce scandale, je ne dirai qu'un mot, qu'une phrase hein, plutôt. Mon grand-père a écrit pour des couleurs de voix, non pour des couleurs de peau. Et je trouve, c'est extraordinaire. Et j'ai raconté ça à Nelson Mandela, il était en larmes, c'est un grand souvenir. Donc voilà, je l'ai raconté. Et il y en a d'autres.
Bien sûr. Et parmi les artistes que vous évoquez assez longuement, il y a donc...
Attendez, vous me permettez. Je suis désolé, mais quand j'ai un micro, je... Non, mais parce qu'on parlait de Philippe Jaroussky, il y a une jolie anecdote, c'est celle qui concerne Alfred Deller.
Oui.
Alfred Deller, ça a été le premier des contre-ténors. Donc vous connaissez l'histoire, les castrats, la fin des castrats, mais avec la renaissance du baroque, la nécessité de remettre à l'honneur des voix qui puissent chanter ce répertoire des castrats, d'où l'arrivée des contre-ténors anglais, des hautes contres français, mais pour commencer, des contre-ténors anglais. Et le premier des grands contre-ténors anglais, c'est Alfred Deller. Alfred Deller, donc dans les années, fin des années 50, commence à chanter ce répertoire. Pour comprendre la chose et le sel de l'histoire, qui est une histoire vraie, il faut savoir qu'Alfred Deller était grand, une espèce de bûcheron, des grands cheveux et une barbe. Et un jour, donc, Alfred Deller chante dans un théâtre de la province anglaise, et un jeune musicologue emmène sa petite amie pour écouter ce phénomène de Deller, sans lui avoir expliqué ce que c'était. C'était peut-être son tort, il faut de temps en temps expliquer ce qu'on va entendre et voir. Et donc il s'installe, comme vous, et puis arrive Alfred Deller, donc baraqué, grand cheveux, barbe, qui commence à chanter, je ne sais quoi, un air de Handel ou autre, avec cette voix extraordinaire, cette voix de rossignol étonnante. Et la jeune femme est très, très, très étonnée. Tellement étonnée qu'au bout d'un certain temps, discrètement, elle se penche à son ami et elle dit « Mais pourquoi il chante comme ça ?» Alors, évidemment, dans un concert, on ne donne pas un cours. Donc, il dit « C'est pour imiter les voix des castrats. »« Ah, dit-elle. » Et puis, 3 minutes après, « C'est quoi les castrats ?» Alors, c'est pareil. Il dit, c'est des enfants qui ont fait subir une petite opération pour qu'ils conservent leur voix d'enfant. « Ah !» Et puis finalement, son visage s'éclaire et elle dit à son... Je comprends pourquoi il s'est laissé pousser la barbe, c'est pour qu'on ne voit pas la cicatrice. Et j'adore cette histoire.
Alors, vous évoquez...
Il y en a plein d'autres, hein, mais je ne vais pas toutes vous les donner.
Vous évoquez donc d'autres artistes, je pense à Maria Malibran.
Maria Malibran, c'est très important parce que... Maria Malibran, c'est la Callas du 19e siècle. Non, je ne vais pas vous empêcher de poser vos questions, mais j'ai une passion pour Malibran. Je trouve que c'est un personnage d'opéra et je suis sidéré qu'on n'ait jamais composé d'opéra. Sacha Guitry a fait un film sur la Malibran, un film très réussi, mais il n'y a jamais eu d'opéra. Alors que c'est vraiment le personnage romantique extraordinaire, enfin, qui est une espagnole fille d'un des plus grands ténors de son époque, Manuel Garcia, créateur du rôle d'Alma Viva dans Le Barbier de Séville. Elle naît à Paris, à côté de l'Odéon. Elle va devenir très vite sous la férule de son père, qui veut en faire une chanteuse va devenir une très grande chanteuse. Elle va se révéler à Londres en remplaçant au pied levé une chanteuse dans Zerlina de Don Giovanni. Et puis, elle va aller avec son père et la troupe de son père. Son père a une troupe de chanteurs aux États-Unis, où ils vont faire découvrir l'opéra aux États-Unis. L'opéra n'existait pas aux États-Unis, on n'avait jamais fait entendre. Et puis là, elle va chanter Rosine de Barbier de Séville, Zerline. Et elle va rencontrer un monsieur, cette jeune Maria Felicia Garcia, qui s'appelle Eugène Malibran, qui a 30 ans de plus qu'elle, mais qui a beaucoup d'argent. Et donc, on les marie. Et puis finalement, le mariage est un fiasco épouvantable. Et le jeune Malibran est un escroc qui avait fait miroiter qu'il y aurait beaucoup d'argent et qu'il reviendrait. Enfin bref, tout ça est un naufrage. Donc elle quitte, ce qui est quand même assez extraordinaire, elle a 20 ans. Elle quitte son mari, elle reprend le bateau. 27 jours à l'époque, hein. 27 jours de navigation, elle revient en France, et là, elle va faire une carrière tout à fait extraordinaire. C'est une des plus grandes cantatrices de son époque. On ne peut pas imaginer, quand elle chante en Italie, à Milan ou à Venise, la ville entière est illuminée, on jette des fleurs sur son passage. Enfin, c'est des choses hallucinantes, on imprime des médailles pour elle, bref. Et puis, à 28 ans, elle fait toute chose. Elle fait de la peinture, elle fait de l'escrime, elle fait du cheval. Et justement, elle fait du cheval. Et puis, un jour, elle est à Londres. Et entre deux représentations, elle va faire du cheval. Et son cheval s'emballe. Elle fait une chute grave. Et trois semaines après, elle en meurt. Elle a 28 ans. Mais c'est un destin d'opéra extraordinaire. Donc, j'ai pris 30 pages de livre pour raconter cette histoire. Parce que j'adore l'histoire de Maria Malibran. J'ai eu un choc. Un jour, dans le musée de la Scala, si vous allez à la Scala, ne manquez pas à l'entracte de monter au foyer, passer à droite, et vous avez le musée de la Scala qui est ouvert. Vous pouvez y passer tout l'entracte. Il y a des tas de collections. Et il y a cet immense portrait de Malibran avec au pied les stances à Malibran d'Alfred de Musset, parce qu'Alfred de Musset était évidemment fou amoureux d'elle. Et le portrait est d'une beauté telle que voilà, j'ai craqué pour ce portrait. J'ai eu envie d'en savoir plus sur Malibran et donc de le faire partager. Je vous assure que je réponds maintenant à vos questions.
Alors, justement, on évoque des femmes fascinantes parmi les interprètes du répertoire lyrique. Vous consacrez aussi de très nombreuses pages, 24 je crois, à Maria Callas.
Ah bah oui, quand même. Bah oui, j'ai dit Malibran, c'est la Callas du 19e siècle, parce que oui. Voilà. Maria Callas, Maria Callas, c'était pas facile de dire, parce qu'au fond, je me suis dit... Je pourrais analyser la voix de Callas, pourquoi cette voix qui est loin d'être une belle voix au sens des canons traditionnels, c'est-à-dire au sens, par exemple, sa rivale Tebaldi avait une plus belle voix qu'elle, mais qui était évidemment infiniment moins émouvante, parce qu'il y a à l'intérieur de la voix de Callas ce quelque chose qui est le théâtre, le feu du théâtre à l'intérieur d'elle-même, et qui transcende les aspérités de cette voix pour en faire quelque chose d'unique. Mais en même temps, la voix de Callas, elle est liée aussi à la vie de Callas. C'est une vie extraordinaire, elle aussi, alors bouleversante, qui traverse l'Amérique, qui naît à New York, qui vient en Grèce, qui repart en Amérique, qui revient en Italie, qui se marie avec un espèce de bizarre personnage qui est son impresario, mais qui ne la rend pas heureuse, et qui passe sa vie à incarner des femmes qui sont transportées par ce feu intérieur qui les prend et qui ne vit aucun amour et qui finalement à 36 ans tombe sur une espèce de mafieux mais qui la fascine et qui est Onassis et qui va la briser puisque Onassis s'en moque totalement de l'opéra, c'est simplement pour son tableau de chasse, c'est un trophée en plus et il va la briser en l'abandonnant de surcroît. Enfin, on connaît les grandes lignes de l'histoire, mais j'ai voulu raconter en détail parce que c'est une histoire absolument bouleversante. Et moi j'ai une passion pour Callas, mais j'ai aussi une grande déception avec Callas, puisque la seule fois de ma vie où j'ai vu Callas sur scène, c'était La Fois trop tard. J'ai pas eu la chance de la voir dans un opéra, parce que voilà, j'étais trop jeune. Et j'ai pu assister à son dernier récital au Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est un moment qui est resté très douloureux, parce qu'elle est apparue sublime, une grande robe rouge, magnifique. Et quand elle a chanté, c'était terrible, parce que la voix était à la corde, la voix était déchirée, la voix n'était plus rien. Et donc, c'était une grande déception. Mais le personnage me fascine parce que, en fait, elle est toujours présente dans les disques. Ça, je dois dire que la disque, Malheureusement, il n'y a pas de film. Il y a le deuxième acte de Tosca qui a été filmé, mal filmé. Mais enfin, on voit un peu ce qu'est la tigresse en scène. Mais elle est tellement vivante dans ses disques. Si vous écoutez la Tosca de Sabata, il y a une telle vie extraordinaire qu'elle est présente, on la voit, c'est palpable. Et c'est vrai que Callas m'a beaucoup nourri, donc c'est pourquoi il y a 35 pages.
Alors, Callas, Malibran, beaucoup d'autres chanteuses, quelques ténors quand même aussi, qui fascinent le public, néanmoins traités avec moins d'ampleur. Est-ce à dire que vous êtes peut-être un peu moins sensible alors à la voix, ou à la voix masculine, ou aux hommes, j'allais dire?
Alors, oui, on peut dire ça comme ça. c'est peut-être plus
Pavarotti,
la vérité.
Pavarotti, 4 pages.
Pavarotti, vous savez, Pavarotti, c'est un très grand chanteur, mais le personnage était, pour dire la vérité, tellement désagréable qu'on n'a pas envie de s'étendre sur lui. Je l'ai rencontré, évidemment, plusieurs fois. J'ai fait des émissions avec lui. Mais c'était pas du tout un personnage chaleureux. C'était le contraire, au fond, de l'image qu'il donnait. Et donc, j'ai pas vraiment vécu des choses intéressantes avec lui. Je suis pas le seul à le dire, d'ailleurs, parce que tous ceux qui l'ont approché savent que c'était pas un personnage qui était... Enfin, c'était le contraire de cette espèce d'image rayonnante telle qu'on le voit à l'opéra ou dans les concerts des trois ténors. Quelqu'un comme Domingo, comme Jonas Kaufmann ou comme Alagna sont des gens beaucoup plus généreux. Je pense que... Malheureusement, Pavarotti avait une générosité dans la voix, mais pas dans la vie. Et donc, je parle de ce que j'aime, mais c'est des voix que j'aime. J'aime beaucoup les voix, j'aime beaucoup les voix de basse aussi. Il y a un grand article quand même mon ami Ruggero Raimondi.
Oui, tout à fait.
Et puis d'autres sur Talvella, sur Gaurov. Mais encore une fois, c'est le reflet de ce que de mes convictions propres. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, si vous voulez. Vous savez, c'est beau être un critique reconnu, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis est la vérité. Vous savez, quand on parle d'un opéra, quand on me demande à la sortie d'un spectacle, qu'est-ce que vous en pensez ? Et parfois, d'ailleurs, on me demande cette chose terrible. Je me souviens, un jour, je referme, c'est encore une parenthèse, mais c'est très amusant. Une dame vient me voir, et ça m'est arrivé plusieurs fois, Monsieur Liot, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Il ne faut rien en penser, on pense ce qu'on pense. Mais moi, quand je dis ce que je pense, c'est ce que je pense. Donc, l'avantage que je peux avoir, disons, sur le public en général, c'est que comme je passe ma vie depuis plus de 35 ans à aller voir des opéras partout dans le monde, la critique se fait aussi par une mémoire, une comparaison, une étude des partitions, des œuvres. J'ai été aussi pendant près de 20 ans directeur de l'Avant-Scène Opéra, où on analyse des partitions. Donc, j'ai une connaissance informée. Mais néanmoins, les avis sont forcément subjectifs, parce que vous êtes sensible à une voix plus qu'à une autre, à un personnage plus qu'à un autre. Et un critique, il vous donne son point de vue, son regard informé, son écoute informée, mais il y a forcément une part de subjectivité. Et c'est pourquoi il ne faut jamais prendre des critiques pour des pourvoyeurs de vérité. Ils donnent des éléments d'information qui doivent vous aider, mais il faut penser par soi-même. Si on aime, il ne faut pas avoir hésité à le dire. Et si on n'aime pas, il ne faut pas hésiter à le dire. Je vais vous donner une anecdote qui n'est pas dans le livre, mais qui vous montrera pourquoi il ne faut pas hésiter à dire quand on n'aime pas. C'était il y a une dizaine d'années, ou un peu moins, 8 ans, j'étais à la salle Gaveau pour entendre une jeune cantatrice, chef d'orchestre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Haïm, qui donnait une série de cantates inédites de Handel, qui à mon avis auraient dû rester inédites d'ailleurs, tellement elles étaient ennuyeuses. Et je n'étais pas le seul à les trouver ennuyeuses, parce que tout le monde somnolait autour de moi, on sentait vraiment que c'était un ennui qui gagnait la salle. Et ouf, arrive l'entracte. On sort, et une dame se précipite vers moi. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours des dames qui se précipitent vers moi. Je trouve ça très bien. Mais une dame se précipite vers moi et dit « Ah, monsieur Duo, quel beau concert, n'est-ce pas ?» Et je lui dis « Écoutez, je suis désolé, mais je m'ennuie beaucoup. » Et là, elle me fait cette réplique extraordinaire. « Ah, vous aussi ?» Et ça, c'était génial, parce que ça voulait dire qu'elle s'ennuyait terriblement, mais qu'elle se disait vis-à-vis de Duo, je vais quand même dire que c'est intéressant. Pour avoir l'air comme ça, Eh bien, non. Mais c'était étonnant parce que quand j'ai dit, oh, je m'ennuie beaucoup, vous aussi, tout d'un coup, elle s'est illuminée, c'était génial. Donc ça veut dire qu'il faut dire ce qu'on pense, Et il n'y a pas de normes. Même, par exemple, moi j'ai une passion pour Callas. Il y a des gens qui détestent Callas. Ils me le disent, alors j'essaye de leur expliquer pourquoi j'aime Callas. Mais après tout, ils ont le droit. De toute façon, quand ils se retrouveront chez eux, s'ils ne veulent pas écouter Callas, ils écouteront Tebaldi. Puis voilà.
Alors, l'opéra, c'est aussi des chefs, des metteurs en scène.
J'y pense Callas Tebaldi parce qu'il y a une entrée qui s'appelle Vacherie. Parce que les chanteurs entre eux, parfois, ne sont pas tendres. Et il y a une très jolie vacherie, justement, de Callas vis-à-vis de Tebaldi. C'était un jour, Callas était interviewé par, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était très célèbre, une journaliste très célèbre du New York Times, qui lui dit votre rival Tebaldi, elle allait lui poser la question, et Callas la coupe, lui dit: écoutez, on ne compare pas le champagne avec le Coca-Cola.
Et donc, l'opéra...
Mais je vais vous laisser poser les questions.
Je vous en prie. L'opéra, c'est aussi les chefs que vous évoquez, bien sûr, de manière très importante. J'ai beaucoup aimé l'article que vous consacrez à Karajan, que j'ai trouvé très émouvant. C'est vous qui étiez là au printemps 88, lors de sa dernière interview télévisée. Il y a aussi un très bel article que vous faites sur les Kleiber, sur Mouti, sur Gergiev. Et puis, il y a un article que vous faites sur William Christie. Et j'allais dire, dans lequel vous abordez un peu votre sentiment relatif à la musique baroque, que l'on a légèrement senti tout à l'heure avec l'évocation de Handel. Et vous évoquez au sujet de William Christie qu'il a l'art de la gourmandise, ce qui est positif. Et vous ajoutez qu'il fait partie des rares artistes du baroque, avec Philippe Hervec, Dominique Wyss et l'écrivain Philippe Bossan, à avoir grâce à vos yeux.
Oui.
Est-ce que les baroqueux, certes, on a connu leur caractère dogmatique, mais est-ce qu'ils n'ont pas changé ?
Si, ils ont changé, mais grâce à des gens comme Christie. Il y a beaucoup de baroqueux qui sont, des végétariens de la musique. Et des gens, justement, comme Philippe Bossan, l'écrivain, mais comme Bill William Christie, sont justement des gens qui montrent qu'on peut... aimer cette musique, ses subtilités, ses richesses, mais en lui donnant de la chair. Mais quand même, très longtemps, vous avez raison, ça a bien évolué ces dernières années, mais il y en a encore quand même. Il y a un certain nombre de baroqueux qui sont des intégristes d'une reproduction ancienne dont on n'est pas sûr qu'elle soit juste d'abord, et qui sont des intégristes de cette double croche pointée qui doit être toujours respectée chez Handel ou chez... Je dis Handel parce que c'est le plus grand, mais il y en a bien d'autres. Et ça m'a toujours un peu... Vous avez compris, ça se voit d'ailleurs, que je ne suis pas végétarien, et que justement ce que j'aime chez William Christie, c'est que c'est quelqu'un qui aime la vie. Il l'aime sous toutes ses formes. Il a une gourmandise dans la vie. Si vous allez chez lui, il y a une richesse de la décoration. Il a un hôtel particulier absolument magnifique, pas loin de l'Opéra Bastille, qu'il a décoré avec un goût extraordinaire. Il a une maison en Normandie avec un jardin qui se visite maintenant, tellement c'est extraordinaire. Donc il a cette passion de la vie. Or, au fond, ce que je reproche aux intégristes du baroque, qui trop longtemps ont tenu le devant de la scène, c'est justement de vouloir imposer quelque chose de normatif. Une norme qui ne doit pas justement être touchée par des émotions qu'ils considèrent comme trop primaires, et ils veulent être... propre en ordre, comme on dit en Suisse, un peu guindé, et c'est ce qui m'énerve. Alors que justement, ce qui me plaît chez William Christie, c'est cette ouverture, cette passion de la vie, comme d'une certaine manière Arnoncourt. Vous savez, Arnoncourt, au début, il a commencé ultra intégriste, et puis il s'est ouvert jusqu'à diriger des valses de Strauss ou Aïda. D'ailleurs, il n'aurait pas dû diriger Aïda, parce que ça, pour le coup, il n'a pas la pulsation. Mais au fond, on peut dire que c'est probablement aussi une évolution. Au début, les baroqueux ont eu à imposer un style parce que toute cette époque qui précédait avait recouvert de béchamel cette musique. Il fallait un peu, comme dans la Nouvelle Cuisine, déblayer. Mais de la même manière qu'il y a eu des excès dans la Nouvelle Cuisine, il y a eu des moments où on avait un petit pois dans l'assiette avec une touche de gingembre et on disait c'est génial. C'est peut-être génial, mais enfin quand même, c'est voilà.
Alors, peut-être une dernière question, parce que le temps passe et que nous sommes un peu en retard. Une question sur l'actualité. Alors, votre dictionnaire évoque, je le dis rapidement aussi, évidemment, les lieux, puisque les lieux sont fascinants. Le phénix, la Fenice à laquelle vous tenez particulièrement, la Scala, le Covent Garden, etc. Les festivals également. Et puis,
c'est tout un monde à l'opéra.
C'est tout un monde. Quelques mots aussi particuliers, le poulailler, la mort, on meurt beaucoup à l'opéra, dites-vous. Ouais, ouais. C'est vrai. Alors, dernière question.
Pratiquement ça sera, tout le temps.
Tout le temps. Ça sera sur l'actualité. Stéphane Lissner quitte la Scala de Milan. Vient remplacer dans quelques mois Nicolas Joël. Vous évoquez Stéphane Lissner dans votre dictionnaire.
J'ai même, pour dire la vérité, j'avais écrit l'article sur Stéphane avant qu'il soit nommé à la succession de Nicolas Joël, et j'ai évidemment modifié la dernière phrase pour dire à quel point je trouvais que c'était une bonne décision.
Voilà, c'était le sentiment que je voulais avoir de vous, oui, pour
vous
cette
savez,
venue.
Stéphane Lissner, c'est un personnage étonnant. Je le connais depuis vraiment tous ses tout débuts. Et c'est un personnage qui a cette particularité, qu'il est arrivé dans ce milieu sans rien connaître de l'opéra. Et il a appris petit à petit. Il a un talent, un rayonnement, un charisme extraordinaire. Et il a su devenir un des grands directeurs d'opéra. C'est quand même quelqu'un qui a dirigé le Châtelet, le Festival d'Aix-en-Provence, la Scala de Milan, et qui va maintenant diriger l'Opéra de Paris à partir de rien du tout. C'était quelqu'un qui était passionné par le théâtre, d'abord. Il ne sait pas lire la musique. Et il a un sens de l'intuition, comme disent les chanteurs, une feuille, il a une oreille, il sait repérer ceux qui vont marcher, il sait faire des distributions. Regardez. La semaine dernière, vous avez pu voir sur Arte l'ouverture de la Scala avec le Lohengrin. Eh bien, il a réussi à faire ce que n'arrive pas à faire Bayreuth, à donner une distribution. Malheureusement, Anya Arteros, qui devait chanter Elsa, était malade la veille, mais il a réussi à faire venir Annette Dash. Jonas Kaufmann, qui est sans doute le plus grand Lohengrin d'aujourd'hui. René Pape, qui était un König extraordinaire. Donc, vraiment, il sait réunir les gens, trouver des relations qui fonctionnent entre des chefs et des metteurs en scène, réussir à renouveler aussi la mise en scène sans que ça soit du n'importe quoi. Si vous voulez, ce Lohengrin est un Lohengrin extrêmement moderne sur le plan de l'image, mais fidèle à l'esprit, ce qui n'est quand même pas toujours le cas. Moi, j'ai vu il y a 3 ans un vaisseau fantôme, c'était à Kassel, qui se déroulait dans une usine de retraitement de déchets atomiques. Vous imaginez, c'était... Alors, on a maintenant un certain nombre de metteurs en scène qui font un peu n'importe quoi pour faire différent. L'anecdote célèbre de il y a 7 ans, 8 ans à l'Opéra Bastille, le Péléas et Mélisande, monté par Bob Wilson, et qui, au moment de la scène de la tour, mes longs cheveux descendent tout au long de la tour, avait affublé la malheureuse Mireille Delinge d'un faux crâne qui faisait qu'elle était rasée. Ce qui fait que mes longs cheveux descendent tout au long de la tour, elle était comme ça. Elle était évidemment très malheureuse de ça. La salle était pliée de rire, et ce qui est quand même pas l'atmosphère, c'est pas une opérette, Péléas et Mélisande. Donc voilà, je pense que autant je crois à la nécessité de renouveler l'imagerie de l'opéra, la mise en scène, d'apporter des regards nouveaux, de donner une dynamique nouvelle, c'est indispensable, sinon l'opéra mourrait. Autant je suis un peu énervé par certains débordements et certains excès, comme on en a vu à l'Opéra de Paris récemment, hélas. Et Stéphane Lissner, il sait faire venir les grands, il sait faire venir Chéreau, Klaus Guth, donc des gens qui ont une formidable réflexion et un sens de l'esthétique, tout en donnant un sens aussi qui correspond à l'esprit des œuvres telles qu'elles ont été écrites. Et c'est pourquoi je pense qu'on a de la chance de récupérer Stéphane Lissner en France.
Alain Duhaut, merci infiniment pour ce moment, pour cette passion. Et puis... Bravo.
Et je le vous invite dans ce petit livre de poche
qui fait 1,5 kg. Et à passer un excellent moment avec ce dictionnaire.